19h, 20h.
Les carnets du monde sur Europe 1.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour Amblin, bonjour à tous.
Bonjour Sophie.
Soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Ravi de vous retrouver pour une heure de vadrouille au menu des reportages, des chroniques et un invité. Antoine Glaser sera avec nous dans un petit instant pour décrypter ce qui se passe au Gabon. Puis on filera à Barcelone. Un petit goût de revenez-y, de vacances. Mais figurez-vous que dans certains spots du Farniente, les Espagnols en ont assez de nous voir.
Je suis là depuis 8 mois.
Aleppo.
Je viens d'Alep. En Syrie, c'est pas très cool. Ici, c'est plus cool.
Alors ça, c'est un petit Syrien en fait qui est en classe en Allemagne. Ce sera le deuxième reportage, celui d'Hélène Kohl à Berlin. Elle, on se fera petite souris pour nous glisser dans une salle de classe. La maîtresse s'appelle Anna. Les enfants, vous l'avez entendu, ils ont entre 8 et 12 ans. Ils sont tous réfugiés. Ça s'appelle les classes de bienvenue en Allemagne. Et puis on va découvrir ensemble ces classes de bienvenue donc qui permettent de scolariser 300 000 enfants arrivés l'an dernier. Après 19h30, les quatre loustiques de la bande des carnets viendront nous raconter le monde à travers une musique, un roman, des dessins de presse et un film. Et puis le mot de la fin reviendra à l'ami Joseph qui nous expliquera le burkini vu d'Autistan. Voilà Amblin, vous connaissez le programme ?
Oui, en ouverture des carnets. Dans quelques instants, c'est d'abord au Gabon qu'on va s'intéresser. Y a-t-il vraiment eu triche lors de l'élection présidentielle du week-end dernier ? Que peut-il se passer maintenant ? Antoine Glaser va nous aider à comprendre ce qui se passe. A tout de suite avec Sophie Larmoyer. Les carnets du monde, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite des carnets du monde avec Sophie Larmoyer, c'est l'invité des carnets. Demain, ça fera une semaine que les Gabonais ont voté pour élire leur président de la République. Mais depuis mercredi, depuis la proclamation des résultats, le pays est en proie aux violences. L'invité des carnets du monde ce soir est Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique et auteur du livre « Arrogant comme un Français en Afrique » aux éditions Fayard.
Bonjour Antoine Glaser, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. On suit évidemment ce dénouement violent de l'élection présidentielle au Gabon, qui était à craindre. Hein. Évidemment, la campagne avait donné le ton, elle avait été assez terrible. Et au moment où on se parle, les observateurs sur place ont compté au moins 5 morts. Il y a entre 20 et 30 opposants, dont un ancien vice-président et deux anciens ministres, qui ont été retenus à Libreville par les forces de sécurité au QG de campagne du candidat malheureux Jean Ping. Je dis ont été retenus parce qu'il y a quelques minutes à peine, un porte-parole du gouvernement gabonais de passage à Paris vient d'annoncer que ses opposants pouvaient rentrer chez eux. Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire, cette incarcération comme ça à ciel ouvert dans le QG de Jean Ping? C'était de l'intimidation?
Oui, bien sûr, c'était une séquestration en fait de tous les anciens baron du régime de Omar Bongo, qui est le père de Ali Bongo, et c'est vrai qu'il y a toujours une détestation de Ali Bongo, qui avait créé un sorte de courant des rénovateurs au sein du Parti démocratique gabonais. Il déteste réellement tous ces anciens, ceux qu'il appelle des caciques, dont fait partie Jean Ping, son principal opposant. Et c'est vrai que, je pense qu'on ne peut pas non plus écarter et de cette espèce d'aspect psychologique et politique contre tous ces barons. Il était très content de les avoir séquestrés pendant un certain temps.
Un peu l'humiliation, quoi, au passage.
L'humiliation, c'est ça. Absolument, la revanche. Ouais. La revanche.
Alors, il y aurait par ailleurs plus de 1000 arrestations. Ceux qui ont pris la rue dénoncent un hold-up électoral. Hein, on le raconte depuis 3 jours sur Europe 1. Beaucoup d'observateurs semblent convaincus qu'il y a eu fraude, effectivement. Vous qui connaissez bien le système, vous qui avez vos sources là-bas, qu'en pensez-vous?
Oui, on en est au stade de la suspicion, mais on est au-delà à partir du moment où la région du Haut Togoué, qui est la région de la famille Bongo, a toujours servi d'ajustement électoral aux élections. Donc, quand il arrive et que finalement, il y a quand même maintenant beaucoup plus d'observateurs qu'auparavant dans les élections en Afrique, et en particulier au Gabon, et c'est vrai qu'à la fin, il manquait, un certain nombre de voix à Ali Bongo, et Jean Ping commençait à dire qu'il était, il se proclamait vainqueur. Et c'est vrai qu'il n'a gagné Ali Bongo que par 5594 voix, uniquement parce qu'il a été trouvé plus de 73 000 voix dans sa région du Haut-Ogooué.
Avec un taux de participation record.
Ben, ça veut dire, c'est absolument incroyable. Ça veut dire qu'il y a 99,93% de gens inscrits. C'est quasiment comme si tout le monde avait été voté et lui obtient 95%. Ça veut dire que c'est vraiment la variable d'ajustement électoral. Donc, ce que demande non seulement, bien sûr, l'opposition, mais l'Union européenne, ou enfin, ce qu'on appelle maintenant la communauté internationale, c'est de dire, faisons ça, bureau de vote par bureau de vote.
Ouais, publions les résultats bureau de vote par bureau de vote. Tout le monde le demande, effectivement. Et on n'imagine pas Ali Bongo accéder à cette demande.
Non, absolument pas. D'abord, il dit, d'abord, on sent bien que maintenant, sa première déclaration, ça a quand même été de dire, l'ordre règnera à Libreville.
Moi, président.
Au Gabon, je suis chez moi. C'est vraiment une fin de non-recevoir à la communauté internationale, à l'opposition. On sent qu'il se bunkérise et qu'il n'a pas l'intention de céder. Et il dit, vous n'avez qu'à aller à la Cour constitutionnelle. Sauf que même l'Union européenne reconnaît que la Cour constitutionnelle, qui devrait normalement traiter les recours, manque de transparence et d'indépendance, puisque c'est le magistrat, le type est président de la Cour constitutionnelle, il est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Donc il y a un manque de confiance, et donc la situation est vraiment bloquée.
Ouais, en 2009, d'ailleurs, il y avait déjà eu des heurts, il y a 7 ans, et 11 recours, je crois, avaient été retoqués par la Cour constitutionnelle à l'époque. Donc on n'a pas l'impression que ce soit vraiment un recours très, très efficace. On se demande, Antoine Glaser, quelle tournure ça peut prendre, du coup, ces événements. Est-ce que la société civile n'est pas quand même beaucoup plus mobilisée cette fois qu'elle ne l'était il y a 7 ans ?
Si, absolument. Ça veut dire, on voit ce qui se passe au Gabon, c'est passé au Burkina Faso comme au Sénégal. Ça veut dire, c'est très souvent un ancien compagnon de route, un ancien baron du régime qui passe dans la dissidence et qui crée un parti d'opposition et qui est soutenu par la société civile qui veut vraiment le changement. Mmh. D'autant que Jean Ping a 73 ans, il a promis de ne faire qu'un seul mandat et de revenir à un scrutin à deux tours. Donc évidemment, ça donne de l'espoir non seulement aux gens qui l'ont soutenu, mais évidemment à la société civile qui en a marre, qui veut le changement. Vous savez, au Gabon, il y a 40% de la population à moins de 15 ans. Les gens n'imaginent pas. Et en plus, c'est un tout petit pays, il y a 1,8 million d'habitants. C'est 600 000 électeurs qui votent. C'est un quartier de Paris, c'est pas plus.
Ouais. Et il y a le collectif, ça suffit comme ça. C'est-à-dire qu'au Burkina, il y avait, je crois, le Ballet Citoyen. Au Sénégal, il y avait Yonama. Et là, c'est un collectif qui s'appelle Ça suffit comme ça. Ce sont quoi, des militants associatifs, des syndicalistes qui sont organisés ?
Ce sont des militants associatifs. Ce sont des syndicalistes dont un certain nombre ont d'ailleurs été emprisonnés avant les élections parce qu'ils manifestaient. Et ce sont souvent des jeunes, ce sont des jeunes qui veulent absolument pas, qui ont un peu le dégoût malheureusement de la politique traditionnelle comme elle se pratique en Afrique. Ils veulent pas rentrer dans les partis d'opposition, ils veulent pas être récupérés comme ils ont vu leurs pères ont été récupérés, surtout du temps d'Omar Bongo. Autant le fils Ali, c'est vraiment le bâton. Le père, c'était la carotte. Il y avait à l'époque où le prix du dollar, le baril de pétrole était à 100 ou 150 $, donc ils rachètent le mécontentement. Ces jeunes ne veulent pas participer au système. Ce sont des balais, justement, citoyens. Ce sont des gens qui veulent rester des citoyens et simplement peser dans la vie, comme ça, associative et la vie politique, mais en restant dans les associations.
C'est vraiment une nouvelle génération.
Complètement.
Rapidement, Antoine Glaser, on n'entend pas les Africains, c'est frappant. Il y a eu un communiqué de presse très tardif de la présidente de la Commission de l'Union africaine qui condamne les violences post-électorales. Mais où sont les chefs d'État africains? Où sont les médiateurs potentiels?
C'est très inquiétant, c'est très inquiétant, et à mon avis, ça va participer à la bunkérisation de Ali Bongo, parce qu'il va vouloir montrer à ses pairs africains qu'il tient le coup. Et puisque au Congo, Denis Sassou Nguesso s'est maintenu au pouvoir, Théodore Obiang, son voisin de Guinée équatoriale, qui a une détestation entre lui d'ailleurs et Ali Bongo, parce que quand il est ministre de la Défense, il y avait un problème de frontière entre les deux. Et donc, normalement, ces médiateurs qui auraient dû être finalement les médiateurs de l'Afrique centrale, comme on avait pu connaître pour l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina Faso quand ça allait mal. Ils sont totalement absents, totalement silencieux. Personne ne s'en mêle au niveau africain et c'est très inquiétant. Oui. Et c'est quasiment un scandale dans le sens où c'est aux Africains de s'occuper de leurs propres affaires. Oui. Quand on parle à la communauté internationale, les Africains n'ont qu'à commencer, ces chefs d'État africains, à s'occuper du Gabon.
Les heurts continuent à Libreville, Port-Gentil, mais aussi dans d'autres villes de province. On commence à parler de pénurie, ça ne va pas pouvoir durer ?
Bah, je veux dire, c'est assez inquiétant parce qu'en fait, il y a un blackout total. Mais je sais par des sources qu'il y a beaucoup de villes où il y a un certain nombre de problèmes. Et c'est assez inquiétant, effectivement, parce que pour l'instant, on sent bien un raidissement. Et encore une fois, on sent que la façon dont Ali Bongo a tout de suite réagi en attaquant le QG de Ping et aussi finalement en séquestrant et en ayant des propos, encore une fois, très fermes et en montrant qu'il n'allait pas céder.
On ne sait toujours pas où est Jean Ping ?
Non, mais il a évidemment que si Jean Ping, il a intérêt à... Si Jean Ping est arrêté, c'est vrai que ça change complètement. Il y a eu des problèmes parce qu'il va être jugé, etc. Donc à mon avis, il se planque.
Merci beaucoup Antoine Glaser pour ce décryptage de la crise post-électorale que traverse le Gabon, ce petit pays d'Afrique centrale traversé par l'Équateur. À très bientôt sur Europe 1.
À bientôt, au revoir.
La suite des carnets du monde, et alors que l'été se termine, c'est l'heure des bilans dans le secteur du tourisme, Sophie.
Et voilà, et en France, c'est pas fameux, hein. Moins 7% depuis le début de l'année. C'est Paris qui souffre le plus à cause de la menace terroriste, mais aussi des inondations du printemps, et puis les grèves qui ont découragé certains voyageurs. Et pendant ce temps, nos voisins espagnols, eux, n'ont jamais accueilli autant de touristes étrangers. Près de 10 millions pour le seul mois de juillet, c'est un record. Et parmi eux, 1,5 million de Français. Je sais pas où vous étiez.
Chercher le soleil.
Moi, j'étais pas en Espagne, mais bon.
Non plus.
Tant mieux pour eux, en tout cas, pense-t-on tout de suite. Tant mieux pour l'économie espagnole. Et pourtant, dans certaines régions, l'arrivée de vacanciers est tellement massive que les locaux n'en peuvent plus. En Catalogne et au Baléares, notamment, la grogne est particulièrement visible à Barcelone, où le tourisme est devenu le premier sujet de préoccupation des habitants avant même la crise. En 20 ans, le nombre de touristes a été multiplié par 4 à Barcelone. Et voilà, les habitants se sentent littéralement envahis. Henri de la Guérie a pris son plus bel accent espagnol pour aller à leur rencontre. Reportage.
C'est une soirée estivale dans le Poblano, un quartier familial et vivant à 5 stations de métro du centre-ville. Nous sommes vendredi, il est 20h, l'heure de la promenade pour les Espagnols. Les terrasses, elles, sont envahies par les touristes en train de dîner. Dans leur assiette, pas beaucoup de calamars ou de sardines grillées, plutôt des pizzas ou des hamburgers. Un accordéoniste met l'ambiance, tandis qu'un jeune couple remonte l'avenue serviette sur l'épaule et bouée de plage à la main. À quelques mètres de là, un panneau attire l'attention. Tourisme, oui, massification, non, le quartier pour les habitants. Une trentaine de Barcelonais sont venus débattre des excès du tourisme. Incivilité, spéculation immobilière, perte d'identité. Les plaintes sont nombreuses et la colère se nourrit parfois de simples détails. Joan, 55 ans, ne supporte plus les touristes qui se promènent torse nu.
Le tourisme qui vient ici, c'est celui qu'on appelle le tourisme de cuite. Ce qu'on voit malheureusement le plus souvent, ce sont des gens qui se promènent en pleine rue, en maillot de bain, sans chaussures et torse nu. Je sais pas moi, je suis pas puritain, mais je trouve simplement que c'est un manque d'éducation.
Joanne précise qu'il n'a rien contre les touristes, il aimerait juste qu'il n'oublie pas que des gens vivent là tout le temps. Jordi, lui, est un peu plus en colère, son quartier, dit-il, devient un parc d'attractions.
Moi j'aimerais ajouter quelque chose, je suis souvent allé en France et chez eux les Français se comportent très bien. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils se comportent mal, c'est désolant. Ils croient que tout est permis, uriner, crier, faire l'amour dans la rue, bref, tout ce que vous voulez. À certaines heures de la nuit, c'est insupportable. Ça me fait de la peine de constater qu'ici, ils ne font pas preuve de l'éducation qu'ils ont reçue chez eux.
Cette réunion en plein air ne laisse pas les vacanciers indifférents. Nina, 20 ans, est venue passer la semaine avec des amis.
Oui, je peux comprendre, mais je trouve ça assez hypocrite aussi. Enfin, je veux dire, c'est une ville qui vit du tourisme aussi, principalement. C'est une des principales activités de la Catalogne, donc les rejeter alors qu'en même temps, c'est eux qui les font vivre. C'est un peu hypocrite, je suis un peu gonflée de la part des Espagnols de Barcelone de dire ça.
Mais en 25 ans, Barcelone a multiplié par 4 son nombre de touristes. La vie quotidienne en est forcément perturbée. Et sur cette avenue piétonne, pas moyen de se promener sans se cogner contre une table en terrasse. Les plus anciens ne savent même plus où se retrouver. Naroa, 35 ans, redoute-t-elle la mutation sociologique de quartiers entiers.
Le fait qu'il y a des quartiers qui deviennent à la mode, comme c'est le cas de Poblano en ce moment, ça veut dire que les coûts de la vie, ça devient beaucoup plus cher. C'est-à-dire que beaucoup de voisins, ils doivent partir parce qu'ils ne peuvent pas payer les loyers parce que ça monte beaucoup. Ça veut dire aussi que les boutiques qu'on a connues toute la vie, ça commence à disparaître, ça commence à arriver des franchises. C'est des boutiques pour les touristes. Les quartiers, ils perdent son identité, ils perdent son charme.
Mais dans le centre-ville, la bataille semble déjà perdue. Plus aucun Barcelonais ne s'aventure sur la fameuse Rambla. La mairie, dirigée depuis un an par Ada Colau, issue de la gauche alternative, ne s'avoue pourtant pas vaincue. Ces derniers mois, elle a interdit les trottinettes électriques en bord de mer. Des détecteurs de bruit ont été installés dans les immeubles touristiques. Et depuis un an, l'attribution de nouvelles licences est gelée. En clair, impossible de construire un nouvel hôtel ou de convertir son appartement en chambre d'hôte. Enfin, Airbnb est dans le viseur de la mairie. Galapine, adjointe au maire en charge du centre-ville, n'hésite pas à qualifier la plateforme de location d'appartements de cancer de Barcelone.
Nous parlons quand même d'une plateforme qui représente 22 milliards de dollars en bourse. Ce n'est donc pas une petite plateforme. Elle touche entre 5 et 12% du prix total par nuit. Quand on spécule sur un bien aussi fondamental que le logement, quand en plus ils expliquent qu'ils permettent à de nombreuses familles d'arrondir des fins de mois difficiles, alors que plus de 60% des annonces sont publiées par de petites ou de grandes entreprises, alors je pense que nous avons un grave problème avec un acteur économique qui fait une exploitation touristique de la ville sans rien donner en échange.
Évidemment, toutes ces mesures pour contenir le tourisme sont très mal accueillies par les professionnels d'un secteur qui représente tout de même 14% du PIB de la ville. D'importants projets immobiliers sont à l'arrêt. Ce sont autant d'emplois en moins, plaide Bruno Allais, consultant en tourisme qui a perdu pas mal d'argent. Il travaillait sur 4 nouveaux hôtels qui ont tous été mis entre parenthèses.
Quand il y a une situation comme celle de Barcelone qui génère des doutes, du jour au lendemain, les investissements changent d'emplacement. C'est très simple. Hein. Ils ont d'autres opportunités. Il n'y a pas que Barcelone comme dossier sur leur table. Donc ils vont avoir Lisbonne, ils vont voir Paris, ils vont voir Madrid ou ils vont voir Shanghai. C'est vrai que pour nous, Barcelone représentait peut-être un 15% de notre chiffre d'affaires en tant que conseil. Aujourd'hui, ça représente un 15% de problème et rien de chiffre d'affaires. C'est vraiment dommage. Tant que tu fais des nouvelles chambres, tu peux générer des nouveaux emplois. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui dans les écoles d'hôtellerie et de tourisme qui ne trouveront pas d'emploi.
Le moratoire sur les hôtels a été prolongé jusqu'en 2017. Résultat, le prix des chambres s'envole à Barcelone. Enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait mieux répartir les touristes dans les différents quartiers pour protéger l'identité de la ville. Car si Barcelone n'a plus rien d'original, les visiteurs pourraient tout simplement aller voir ailleurs. À Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1.
Sur une petite musique, Barcelone vue par ses habitants. Et on vous retrouve, Henri de la Guérie, bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Alors vous êtes bien à Barcelone, vous aussi. Vous m'avez expliqué en préparant ce reportage que la grogne ne concerne pas que Barcelone. Au Baléares aussi, l'affluence record de touristes crée une vraie lassitude des habitants. Et puis on a constaté que les infrastructures de ces îles ont peut-être atteint leurs limites.
Oui, sans doute. Imaginez, au cœur du mois d'août, il y avait à Majorque autant d'habitants que de vacanciers. 2 millions de personnes au total dans une île qui ne mesure même pas la moitié de la Corse. Toutes les 3 minutes, un avion atterrit. Plus d'un million de voitures sont en circulation, sans compter les énormes bateaux de croisière qui font escale, dont, vous savez, l'Harmony of the Seas. C'est ce paquebot hors norme
record,
inauguré. Record inauguré au printemps dernier en France à Saint-Nazaire. Résultat, la police a dû fermer l'accès de certaines plages bondées. Il y a eu des encombrements monstres jour et nuit, et on a même manqué d'eau potable dans certains villages.
Ah ouais, manqué d'eau potable.
Et donc cette affluence, eh bien forcément, elle est de plus en plus difficile à vivre pour les locaux. Des graffitis explicites ont fleuri dans les rues de Palma, notamment « Touristes, rentrez chez vous ».
Là aussi. Alors, que feraient les Baléares quand même et l'Espagne sans le tourisme? C'est une question légitime qu'on peut se poser aujourd'hui.
Oui, évidemment, vous en doutez, ça irait très mal, mais car c'est un secteur vital. Mais il faut le dire, les mentalités commencent à changer en profondeur au Baléares, par exemple. Le gouvernement régional tente de désaisonnaliser le tourisme, c'est-à-dire d'attirer plus de visiteurs au printemps et à l'automne. Une taxe environnementale pour les vacanciers a été mise en place cet été, et on réfléchit aussi à des quotas de voitures en circulation, car Sophie, la menace est bien réelle. L'Espagne pourrait mourir de son succès.
Ouais, l'idée, c'est de mieux les répartir finalement dans le temps. Si on se tient bien, Henri, on peut quand même continuer à y aller au Baléares ou à Barcelone?
Évidemment, bien sûr, et vous serez très bien accueillis. Mais croyez-moi, écoutez, ce sera peut-être encore mieux si vous vous éloignez des sentiers battus. Et puis, écoutez, pourquoi pas programmer ça pour la Toussaint, parce qu'il fait encore là-bas très très beau cette saison de l'année.
Je vous crois, mais il va peut-être falloir qu'on vienne vérifier avec Omblin.
Je prends immédiatement le billet d'avion.
À la Toussaint, pense.
Non, Sophie, on va aller voir.
Bienvenue.
Merci Henri, portez-vous bien et bonne soirée sur les Ramblas.
À bientôt.
C'est fini les vacances, hein, effectivement, on est le 2 septembre.
Oui.
On évoque la rentrée des classes maintenant.
Voilà, exactement, mais pas n'importe où. C'est tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde. Sophie Larmoyer.
De Barcelone en Espagne, nous voilà passés en Allemagne, Sophie.
Voilà, rappelez-vous, c'était il y a un an, l'immense migration des réfugiés à travers les Balkans. La plupart voulaient aller en Allemagne. Chaque jour, des milliers de personnes passaient la frontière. Au total, en un an, 1,5 million de réfugiés sont arrivés et beaucoup sont restés. Et parmi eux, au moins 300 000 mineurs en âge d'être scolarisés. En Allemagne, dans un premier temps, on essaye de placer ces enfants dans des classes d'accueil, appelées aussi classes de bienvenue. C'est un joli nom. Les élèves y passent pour apprendre l'allemand avant de rejoindre chacun à son rythme une scolarité normale. En cette rentrée scolaire, Hélène Kohl nous emmène au cœur de l'une de ces classes constituées d'enfants étrangers. Reportage avec un groupe de 8-12 ans dans une école primaire de Berlin.
Dans la classe d'accueil de cette école de Berlin, les enfants parlent d'avenir. La petite Wurud veut devenir médecin, Ali Reza footballeur, Mara policière. Youssef, lui, a d'autres plans.
Je ne sais pas comment on dit ce mot en allemand, mais je sais le dire en anglais.
Translator.
Traducteur. Arabe, anglais, allemand, français, espagnol.
L'œil pétillant derrière ses grosses lunettes réparées au sparadrap, le petit Syrien de 12 ans ne parlait pas un seul mot d'allemand à son arrivée.
Je suis là depuis 8 mois. Je viens d'Alep. En Syrie, c'est pas très cool. Ici, c'est plus cool.
Avec leur institutrice, Madame Rilling, les 10 enfants venus de 6 pays différents font le bilan de leur première année scolaire en Allemagne.
On est allé à la bibliothèque.
On a lu des livres.
Et tu t'es fait faire une carte de bibliothèque.
Moi aussi.
Et puis on nous a projeté les images d'un livre. Oui, c'était comme un petit cinéma dans la bibliothèque.
Madame Rilling, j'ai une question.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire cinéma?
À la pause, il se jette sur un jeu de Uno. Pour l'institutrice, le sas de la classe d'accueil est indispensable.
Ils se sentent en confiance et donc ils rentrent plus facilement en contact entre eux. Et je sens aussi que cela répond à un besoin. Ici, en quelque sorte, ils peuvent enfin être eux-mêmes et montrer qu'ils savent des choses, eux aussi. C'est pour ça que c'est souvent assez bruyant ici.
Au-delà de l'apprentissage de la langue, c'est dans ce groupe, entre eux, que les enfants débutent leur intégration à la société allemande, à commencer par le vivre ensemble et le respect d'autrui.
Pendant une semaine entière, on n'a fait que ça. Franchement, à mes yeux, à quoi ça sert der, die, das et la grammaire si on passe son temps à se disputer ou à se montrer impulsif, agressif les uns avec les autres?
Ils parlent à peu près tous allemand maintenant, si bien que chacun a déjà pu rejoindre une classe ordinaire. À l'exception de ces 2 heures quotidiennes avec Anna Rilling, ils suivent désormais une scolarité normale. Une adaptation si rapide que la maîtresse ne peut retenir son émotion quand on lui demande si elle est fière d'eux.
Si on fait l'effort de les entourer, ça va nous éviter des tas de problèmes plus tard. Les enfants sont des acteurs essentiels de l'intégration. Ils voient comment leurs parents se comportent, bien sûr, mais ici, ils découvrent aussi comment se comportent d'autres adultes en Allemagne. Et bien qu'ils soient souvent assez perturbés, ils absorbent tout comme des éponges. Il y a tellement de choses qui passent au travers d'eux.
Finalement, reconnaît-elle, elle sait très peu de choses d'eux. Ils n'aiment pas trop raconter leur histoire. Mais elle a compris par petites touches que leur quotidien dans les foyers de fortune est encore très compliqué. Une raison de plus pour essayer de leur offrir à l'école une petite bulle d'insouciance. Un endroit où ils peuvent tout simplement être juste des enfants et rêver d'être un jour traducteur à l'ONU ou footballeur dans l'équipe d'Allemagne. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, belle ambiance autour de l'Instit dans cette classe de bienvenue. Hélène Kohl est avec nous pour nous donner quelques précisions encore sur ces classes particulières. Hello Hélène.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
Des classes comme celle-là, il y en a beaucoup en Allemagne ?
Oui, des milliers, hein. Mais comme l'éducation ici dépend des régions, des Länder, on n'a pas de comptabilisation globale. Rien que pour Berlin, on en dénombre 1100. C'est deux fois plus qu'à la rentrée dernière. La ville a embauché un millier d'enseignants exprès pour s'occuper de ses classes. Au total, en cette rentrée, dans toute l'Allemagne, on a ainsi pu scolariser 120 000 enfants réfugiés de plus, primaires et secondaires confondus, 120 000 enfants ou adolescents qui vont donc retrouver le chemin de l'école ou tout simplement découvrir ce monde car beaucoup n'ont jamais été scolarisés. Alors dans les petites communes notamment, cela a parfois été difficile de créer des classes d'accueil, il faut des locaux, des enseignants, ça coûte cher. L'État fédéral a débloqué des fonds à deux reprises déjà, 150 millions d'euros encore pour cette rentrée.
Mais ça marche, hein, on l'a entendu, les enfants parlent allemand au bout d'un an, puis ils parlaient bien le petit là en plus, hein.
Oui, oui, alors ça marche bien. Et d'ailleurs, hein, dans un contexte général en ce moment très critique à l'égard de la politique des réfugiés de la chancelière Merkel, ces classes de bienvenue, elles, au contraire, elles font l'unanimité. Mmh. Après, évidemment, ça marche plus ou moins vite en fonction des enfants. Ça dépend surtout de leur âge. Les plus jeunes apprennent très vite. Il y a aussi toutes les autres matières. Donc le rattrapage, de toute façon, se fait sur plusieurs années. Et du coup, dans beaucoup d'écoles, on s'adapte avec la mise en place d'un système mixte, comme dans l'école où je me suis rendue. Les élèves passent plus vite dans une classe ordinaire, ce qui est d'ailleurs excellent pour leur intégration. Et les enfants que j'ai rencontrés m'ont tous dit que c'était dans ces classes-là, les classes ordinaires, qu'ils se sont fait leurs meilleurs amis.
En fait, c'est un petit peu du cas par cas.
Oui, en fait, l'Allemagne est bien obligée d'improviser parce que cet accueil, l'intégration des réfugiés, c'est un chantier absolument inédit. On n'a jamais fait ça dans l'histoire.
Et donc, son ampleur est incroyable.
Exactement. Et donc, il n'y a aucune formation pour ces profs de classe de bienvenue, aucun programme à suivre. On n'a pas de recul sur ce qui marche ou au contraire sur les erreurs à ne pas commettre. L'Allemagne tâtonne et les enseignants essuient les plâtres. Je ne vous cache pas qu'Anna Rilin, l'instit qu'on a rencontré, a souvent ces grands moments de doute et de désespoir. Mais avec le recul de quelques mois maintenant, on l'a entendu, elle est fière.
Et puis on a entendu son émotion aussi, c'était joli ça dans le reportage.
Elle avait les larmes aux yeux.
Oui, vraiment.
Parce qu'elle a compris surtout que pour ces gosses ballottés de foyer en foyer, souvent contraints d'accompagner leurs parents à des rendez-vous administratifs, ou pour ceux qui sont seuls en Allemagne, on a 20% de mineurs non accompagnés. Bien cette classe de bienvenue, c'est une bulle rassurante, un peu comme une famille, les mêmes copains, la même maîtresse, la même salle de classe dans laquelle, et ça veut tout dire, hein, ils enlèvent leurs chaussures pour rentrer. Ces enfants sont en chaussons à l'école, comme les tout petits chez nous, comme les maternelles.
C'est en maternelle, nous, qu'on a les chaussons, après on reste en chaussures. Joli coup de projecteur sur ces classes de bienvenue mises en place en Allemagne et qui accueillent l'Allemagne, qui accueille en un an, je le rappelle, qui a accueilli 1 million de réfugiés. Merci beaucoup Hélène, à très bientôt.
À bientôt, bis bald.
Et on va marquer une petite pause, juste le temps pour la bande des carnets de nous rejoindre en studio, le studio de Bienvenue.
Exactement, 4 journalistes dans le vent qui nous racontent le monde à travers la culture, musique, roman, cinéma, dessin.
Vous écoutez les carnets du monde le vendredi jusqu'à 20h avec Sophie Larmoyer sur Europe 1. A tout de suite. Et place à la bande des carnets, la bande au complet des carnets du monde sur Europe 1. Maud Descamps, Nicolas Caro, Mathieu Charrier et Valentin Réglé-Brussy avec vous, Sophie Larmoyer.
Ouais, et c'est la cour d'école, là, hein. Ça se crayonne sur ses papiers. Là, on se calme, les enfants.
Sophie.
Chacun de vous a apporté un objet culturel, objet au sens très large. On va commencer par la musique. Valentin, vous voulez nous parler d'une icône, une légende que beaucoup d'entre nous en France ne connaissent pas.
C'est un Mexicain, Juan Gabriel, mais alors ne pas être connu en France, ça ne l'a pas empêché de vendre plus de 100 millions de disques dans le monde.
Attendez,
et d'être considéré.
Avant qu'on continue, quelqu'un connaît
Juan Gabriel, ça vous parle?
Juan Gabriel, très bien.
Le fameux. Avec Nicolas, on écoute souvent.
C'est un Mexicain. Il a vendu 100 millions de disques dans le monde. Il est considéré comme un monument de la musique hispanique. Ouais. Il était surnommé Il Divo, c'est le masculin de Diva, et il nous a quitté dimanche à 66 ans. Pour vous donner une petite idée de sa notoriété, imaginez que le jour de sa disparition, on a vu passer 1 million de tweets, dont celui d'un certain Barack Obama, qui a salué un grand de la musique latino. Ça, c'est pour la notoriété. En revanche, en termes de look, Juan Gabriel, c'est un mélange de Liberace, Orlando et Roger Carucci. Alors, je vous laisse faire le photomontage mentalement.
C'est vrai, pour l'allure.
Qu'est-ce que Roger Carucci vient faire dans ce
film? Il faut aller voir sur Internet. Et musicalement, ça se rapproche d'un chanteur pour dames, type Frédéric François.
Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí.
Alors là, on vient merveilleux. Écouter, hein, n'est-ce pas? Un extrait de Hasta que te conocí, hein, jusqu'à ce que je te connaisse dans la langue de Molière. Mais vous l'entendez, et sans être ceinture noire d'espagnol, hein, au niveau de la langue, c'est pas du Cervantes, hein, Nicolas Caro qui connaît bien Miguel. Ce qu'on retiendra de Juan Gabriel, c'est qu'il a été une icône gay sans l'être vraiment. Alors lui-même était homosexuel, mais au Mexique, on est plutôt macho. Pourtant, il a su s'attirer la sympathie de tout un pays et même au-delà. Et si il n'a pas lui-même embrassé totalement la cause homosexuelle, hein, quand on lui posait la question de son orientation, il répondait « Lo que se ve no se pregunta ». Quand ça se voit, on ne demande pas.
C'est bon,
ça. Mais il n'a jamais nié non plus, comme dans cette chanson où il en parle à mots couverts.
Mauvais disque qu'on passe dans les, vous savez, dans les mariages. À la
ma
fin
grand-mère va adorer. Hein.
Voilà, il a su trouver son public.
Bien, mais quand même.
Voilà, Noa Noa, c'était le nom d'un bar de Ciudad Juárez au Mexique où Juan Gabriel, Jean Gab, a commencé sa carrière et qui est accessoirement un lieu de rencontre de la communauté LGBT. Alors c'est sûr, Mathieu Charrière, Juan Gabriel n'est peut-être pas assez pointu pour nos oreilles dédicaces, voilà. Mais il n'empêche, plus de 1000 chansons écrites, 100 millions de disques vendus, un tweet d'Obama et de Ricky Martin, il fallait que la France sache.
Il Divo, Maud. C'est ça?
Il Divo,
ça irait bien Nicolas, je pense.
Vous nous avez fait un sketch, mais moi je suis bien contente d'avoir découvert le personnage, en tout cas. Ça manquait à ma culture, personnellement. On reste sur le continent sud-américain. Notre regard et notre oreille se portent sur le Brésil. Oui. Nos oreilles d'ailleurs, à travers trois dessins de presse que vous avez repérés pour nous, Maud.
Oui, trois dessins pour évoquer la destitution de Dilma Rousseff. L'ancienne présidente a été officiellement déchue mercredi par la majorité de plus de 2/3 des sénateurs pour maquillage des comptes publics, vous avez suivi. Et c'est un sujet qui a inspiré évidemment les caricaturistes. Globalement, ils dénoncent ce vote, comme le Cubain Osvaldo Gutiérrez Gomez avec un dessin tout en couleur titré « Le coup d'État ». Alors on y voit Dilma Rousseff quitter son poste, ses cartons sous le bras, sur fond de drapeau brésilien, et en fait elle est chassée par quelqu'un qui du bout du bras brandit une grosse massue tout en lui indiquant la direction de la sortie.
Ouais. Deuxième cartoon qui dénonce la destitution de la présidente brésilienne, c'est le dessin d'un Portugais.
Oui, Vasco Gargalo qui a représenté Michel Temer, l'ancien vice-président qui est désormais à la tête du pays. Dilma Rousseff d'ailleurs l'accuse d'avoir fomenté ce qu'elle appelle un coup d'État parlementaire, et c'est aussi l'avis de ce caricaturiste qui nous montre Michel Temer en train de tirer un grand rideau noir sur le drapeau du Brésil comme pour nous dire, hey hop, circule, il n'y a rien à voir.
Le trait dessine un visage très anguleux et sévère de Michel Temer, un peu conspirateur avec un sourcil relevé. Dernier dessin, celui du néerlandais, alors j'étais sûre que j'allais avoir du mal à le prononcer, Maarten Wolterink.
Wolterink, alors il est très beau celui-là. Dans le fond, un peu de brume, il y a une ville, Brasilia sans doute, et au premier plan, voilà Dilma Rousseff qui s'en va. Derrière elle, un énorme baril de pétrole comme un immeuble, en haut duquel des gouvernants, des dirigeants chassent l'ancienne présidente. Ils ont le doigt accusateur, mais surtout, ils dégoulinent de pétrole. Allusion évidemment à l'affaire de corruption Petrobras dans laquelle sont mouillés une grande partie des sénateurs qui ont justement destitué Rousseff.
Et Rousseff qui est épinglée aussi, puisqu'elle s'est accrochée une petite auréole factice dans le dos. Merci beaucoup Maud. On mettra les liens vers les dessins sur europe1.fr et puis sur la page Facebook des carnets. Et maintenant, on va au cinéma. Avec vous, Mathieu, vous nous faites découvrir un film québécois, ça s'appelle Les Mauvaises Herbes.
Avec l'accent, le film commence dans un petit théâtre avec Jacques, c'est un acteur dont on comprend vite que la carrière est sur le déclin. Jacques qui est poursuivi par un mafieux qui s'appelle Patnaud, voilà, c'est un nom québécois. Il est poursuivi.
Ça fait peur, hein.
Ça fait peur parce qu'il a des dettes de jeu. Il a à peine fini sa scène qu'on le voit, il s'enfuit en courant, il monte dans un autobus un peu au hasard et il va tomber en pleine campagne québécoise complètement enneigée. Là, il se retrouve chez Simon, un vieux bonhomme un peu aigri, qui a dans sa grange, figurez-vous, une énorme plantation de cannabis. On va comprendre au fil de l'histoire pourquoi, et c'est pour la bonne cause, si je puis dire. Jacques va se retrouver kidnappé par Simon, puis les deux hommes vont sympathiser. Là-dessus arrive une employée de l'entreprise d'électricité qui a remarqué quand même que le compteur tournait beaucoup pour faire chauffer les petites lampes dans la petite maison
québécoise. Pour faire chauffer les mauvaises herbes.
Pour faire chauffer les mauvaises herbes. Elle arrive, évidemment, elle découvre tout ça. Ils vont la capturer, elle aussi. Écoutez la rencontre avec, évidemment, cet accent québécois.
Faut t'arrêter de pleurer, là. On n'en serait pas là si t'avais pas été aussi blette.
Je suis pas blette, c'est ma job de relever les compteurs.
Oui, mais t'as vu les pancartes des phrases de passé?
Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vous jure de jamais parler de vous autres.
Je peux pas, ça c'est trop risqué. Hey, pleure pas, OK? On n'est pas des criminels.
Non, un code moral un peu élastique.
imaginatif, peut-être, mais on est...
Ta gueule, Jao.
Voilà. Le code moral un peu imaginatif. Alors ce trio évidemment va apprendre à vivre ensemble. L'histoire est sympa, il y a des dialogues qui sont hyper drôles parce que l'accent c'est bête mais ça nous fait quand même toujours bien rigoler.
Vous savez que ça les énerve hein, qu'on parle de leur accent tout le temps.
Parce qu'eux disent
que
c'est le vrai français.
Bah, oui,
mais bon, nous on trouve que c'est un accent. En plus il y a pas mal de valeurs dans le film, des valeurs familiales, des valeurs d'entraide, des valeurs d'amitié intergénérationnelle. Donc c'est vraiment sympa. Tout ça je vous le disais sur fond de paysage enneigé. Franchement on a envie de plonger dans l'écran pour se retrouver dans toute cette poudreuse. Le réalisateur Louis Bélanger a déjà réalisé pas mal de films qu'on avait vus dans des festivals. Donc c'est un film qui est déjà sorti au Canada, qui vient d'être acheté suite au Festival d'Angoulême par un distributeur français. Donc on va le voir dans des salles françaises. Mais comme il est déjà sorti au Canada, on le trouve en VOD, en DVD. Donc si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez déjà le regarder.
Moi j'attendrai le
grand
écran.
Au cinéma,
c'est
toujours mieux. C'est mieux,
hein ?
Mais oui, bien sûr.
On est d'accord. Musique, dessin, film et le livre.
Tout de même.
Nicolas, votre roman cette semaine, il fait peur.
Rien que le titre, ouais. L'installation de la peur, signé Rouille Zinc, un Portugais. C'est chez Agulo, une toute nouvelle maison d'édition à suivre et qui commence fort avec ce livre. Le roman commence justement avec la sonnette de la porte d'une femme, on ne connaît pas son nom. Ouais. Elle n'attend personne, elle vit seule avec son enfant. Elle se méfie un peu, même si elle n'a objectivement pas de raison d'avoir peur. Et elle préfère cacher son enfant dans la salle de bain. On ne comprend pas trop pourquoi au début. Finalement, elle ouvre. Deux hommes sont là, l'un en costume cravate et l'autre mallette de technocrate à la main et l'autre trapu, bleu de travail avec une boîte à outils. C'est pas l'électricien. Les deux hommes annoncent à la femme qu'ils viennent comme prévu installer la peur chez elle.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, installer la peur?
Ah bah ça on va le découvrir tout au long du roman, mais en tout cas c'est une nouvelle loi, une obligation pour chaque foyer. La directive numéro 359-13 précisément, arrêté 8, on vient chez vous et on vous installe donc la peur, tout un système d'appareils qui diffuse des hologrammes par exemple et qui vous montre les pires scénarios que vous pouvez envisager comme s'il existait vraiment en relief, mais en plus les deux hommes restent là, ils parlent, ils expliquent pendant des heures l'insécurité du quartier, les légendes de serpents ou de crocodiles qui remontent des égouts des villes, les médicaments qui en fait nous tuent, les marchés financiers, tout y passe, la guerre aussi bien sûr, les serial killers. Pendant des heures dans son salon, les deux hommes lui font un exposé terrifiant de tout ce dont on peut ou pourrait avoir peur.
À quoi ça sert ?
C'est un ordre.
Franchement,
c'est
à
un
quoi
ordre.
Ça sert ?
C'est tout, c'est la loi.
C'est la loi.
Tout le monde doit avoir peur maintenant. Le terrorisme, les étrangers, les virus, nul n'est censé ignorer la peur. Non, pas jusque-là quand même.
Bon, elle les laisse faire, elle les laisse s'installer.
Elle
n'a
pas le choix. Et puis, elle a un peu peur d'eux aussi.
Déjà.
Et de plus en plus, au fur et à mesure, plus elle les écoute, plus elle a peur. Ouais. Enfin, peut-être pas tout à fait. Je vous dis rien, mais la fin vous réservera peut-être quelques surprises. C'est un livre très, très étonnant, très drôle aussi. Grinçant, vous avez compris que l'auteur dénonce justement cette installation de la peur, pas dans son livre, mais dans nos vies. Et il nous dit surtout qu'on n'est pas obligé de l'accepter, de céder à cette peur ambiante.
C'est un roman d'intérêt public alors ?
Oui.
Merci Nicolas. La traduction ?
C'est Mayra Muchnik et c'est donc chez Agulo Édition.
Voilà. Nouvelle maison d'édition donc.
On a bien
très belle couverture.
Ouais, très jolie couverture.
Très conceptuelle.
Voilà.
19h48 sur Europe 1, est-ce qu'on a le temps de faire un petit tour de table
mais
insolite,
oui, mais
Sophie ?
Oui, on a le temps, on y va. Commence avec vous, Mathieu,
parce que la semaine dernière,
vous avez un peu squeezé votre info insolite.
Alors,
la semaine dernière. Alors, ça se passe dans le milieu du cinéma ?
Est-ce que vous voyez qui est Ian McKellen, messieurs ?
Gandalf.
Exactement,
Gandalf, oui,
qui joue le rôle de Gandalf. Eh bien, figurez-vous.
Dans le
Seigneur des Anneaux. Eh bien, figurez-vous que le fondateur de Napster, richissime évidemment, lui a demandé de venir célébrer son mariage déguisé en Gandalf. Alors c'était en 2013, mais il l'a révélé il y a quelques jours dans une interview.
Okay.
L'acteur lui a répondu « bah non merci ». Il proposait quand même 1,5 million d'euros. Il a dit « non merci, Gandalf ne célèbre pas les mariages ». C'est classe.
Moi, c'est pareil, j'avais demandé le père Foura. Mais là,
pour 1,5 million aussi.
Bon. Maud, oui. Je me tourne vers vous. Votre histoire, elle est digne d'un film, sauf qu'elle est vraie.
Oui, ça se passe aux États-Unis. C'est une histoire de clones, mais ça fait barrer. Hein. Je vous préviens tout de suite, il y a un phénomène là-bas depuis quelques semaines qui terrifie les habitants de la petite ville de Greenville, en Caroline du Sud. D'étranges clowns rôdent dans la ville. Ils essaient notamment d'attirer les enfants dans les bois en agitant des liasses de billets. Et ce n'est pas une blague. La police n'a pas encore réussi à élucider le phénomène qui ressemble étrangement à un livre.
Un livre, c'est bon.
Mais c'est ça, Stephen King.
Exactement, ça de Stephen King.
C'est
publié en 86.
Oui, tout à fait.
D'accord, les méchants clowns. Là encore, la réalité, encore mieux qu'au cinéma. Cette fois-ci, on est en Islande avec vous, Valentin. Il faut faire bien attention en Islande à ne pas déranger les elfes.
Exactement, c'est à vos risques et périls, parce qu'apparemment, c'est complètement admis en Islande lorsqu'on fait des travaux de voirie
on dérange l'habitat des elfes. Et eux, les elfes, c'est bien normal, ils risquent de se venger, par exemple, à Siglufjordur, en faisant une route. On a malencontreusement recouvert le rocher de la dame elfe, l'Alfkonnustein. Résultat, l'Alfkonnustein. Résultat, j'ai fait l'accent norvégien, désolé. Résultat, inondation, glissement de terrain, pelleteuse qui tombe en panne de façon inexpliquée, et le journaliste qui est venu couvrir l'histoire, qui tombe dans une mare de boue. Il a donc été décidé, cet été, de déterrer le rocher. Et c'est vraiment sérieux, à tel point que parfois les autorités font appel à un médium qui vient négocier avec les elfes pour pouvoir faire les travaux.
Décidément, ils sont formidables, ces Islandais. J'adore les Islandais. À chaque fois qu'on parle d'eux, on découvre un nouvel aspect. Nicolas, vous avez trouvé un gars formidable et insolite, un prof chantant.
Oui, ça se passe aux États-Unis et voilà comment chante le prof en question. Welcome to the fourth grade. Hello, I'm your teacher. My name's Mr. Reed and it's very nice to meet ya. I'm from Chicago, I love eating pizza and I dress to impress, but I still rock sneakers. It's my first year teaching, so it's all real exciting. Voilà,
donc il est prof,
je m'appelle Mr. Reed, j'aime la pizza, je viens de Chicago, on va passer un bon moment cette année. En fait, aux États-Unis, je savais pas, mais c'est une tradition. Les profs écrivent une lettre à leurs élèves, une lettre de bienvenue pour se présenter, expliquer en quelques mots ce qu'ils vont étudier au cours de l'année. Mais époque des réseaux sociaux oblige, ce prof, donc Dwayne Reed, a décidé de tourner un clip sur YouTube et de l'envoyer à ses élèves de CM1, une manière selon lui de capter l'attention des élèves avant de les rencontrer pour que l'année se passe bien. Et le clip en plus est très très bien
c'est
fait.
C'est très rigolo. On mettra le lien sur europe1.fr. Messieurs, mesdames, les profs ici en France, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. On est d'accord. Merci la bande des carnets pour toutes vos histoires du monde, de la planète mondialisée.
Et on vous retrouve tous vendredi prochain, le rendez-vous est pris. On s'apprête à accueillir dans un instant Joseph Chauffanet.
Absolument. Sophie. Joseph qui s'est intéressé à la question du burkini vu d'Autistan, c'est un regard nouveau.
La suite des Carnets du Monde dans deux minutes à peine avec Sophie Larmoyer sur Europe 1. La suite des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer sur Europe 1.
Comme chaque vendredi désormais, Joseph Chauffanet est venu clore avec nous ses carnets, partager son regard sur le monde, teinté de philosophie. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous.
Alors la promesse avec vous, c'est de faire un petit voyage en Autistan, cette contrée dont vous avez inventé le nom, car vous êtes porteur du syndrome d'Asperger, et ça vous donne une perception singulière de nos différences. Et donc aujourd'hui, vous vous y mettez aussi, vous avez un avis sur le burkini.
Ah Sophie, je me suis fait rattraper par ce grand sujet du moment. Je vous avoue, j'ai pendant longtemps trouvé cela assez ridicule. Moi qui ne fréquente pas les plages bondées et autres lieux de macération publique, pardon, de baignade, je rigolais en secret une pète face à ces problèmes de non-autistes. Mais le hic est venu lundi dernier parce que j'ai été invité par un établissement à Hyères, juste en face de la fameuse plage. Et donc là, je me faisait des soucis parce que je porte un pantalon noir long, des manches longues.
Toujours en chemise,
oui. Oui, et donc ça pouvait passer pour un accoutrement religieux. En plus, dans mon sac, il y avait des bouquins écrits dans des caractères bizarres. L'angoisse.
Vous portez toujours des manches longues, vous aimez être couvert, quelle que soit la situation, quel que soit le temps.
Ah, ça me vaut parfois des problèmes, ou des regards étonnés. Cet été, en Sibérie, j'y ai eu droit. Parce que en Russie, beaucoup de l'homme aime l'été venu être torse nu. Et pas que à la plage, même en centre-ville. Donc j'étais sur l'île de Sakhaline, en chemise évidemment, et là une femme d'un certain âge que je ne connaissais pas du tout m'a engueulée, m'a fait des remarques sur ma chemise, me disant que visiblement je transpirais et que je devrais probablement l'enlever ou que sais-je. J'ai eu peur et je suis enfuie. Bref, donc en Russie, il est relativement banal de croiser des hommes qui montrent leurs muscles. Je crois que c'est une survivance de l'époque soviétique où la pudeur bourgeoise n'avait pas vraiment sa place. D'ailleurs, les visiteurs occidentaux sont souvent frappés dans les parcs de sport ici de l'URSS par le nombre de statues dans des positions sportives où on voit des hommes et des femmes sans le moindre vêtement. Sauf les statues de Lénine. Lénine, lui, il est toujours habillé, et même, je dirais, habillé de la même façon. Hein. Peut-être qu'il avait quelques petits côtés autistiques, je ne sais pas.
Ah oui, peut-être. Il y a d'autres pays, Joseph, où avec votre uniforme, en quelque sorte, vous êtes plus à l'aise.
Peut-être, oui. Peut-être, je pensais à la Chine, ouais, le pays voisin hein, de la Russie. Alors, on parle souvent en Occident du face-kini des Chinois.
Ça. Ouais, c'est cette sorte de cagoule que mettent les femmes, notamment voilà, à la plage, pour ne pas bronzer, hein, pour voilà, garder la peau claire.
Mais je crois qu'elle n'en aurait presque pas besoin, ouais, puisque beaucoup de Chinoises portent le parapluie, le chapeau, divers châles, etc. Donc le face skinny n'est presque pas nécessaire. Et d'une certaine façon, je suis moins angoissée dans ce type ouais, de cadre-là.
Mais vous vous baignez jamais, Joseph, du coup ?
Je fuis la baignade, pour le dire ouais, comme cela. Lors de mon dernier voyage au Yémen, hein, il y a un an et quelques, juste avant le début de la guerre, j'étais arrivé un jour dans un wadi, un oued magnifique.
C'est quoi, c'est une oasis, c'est ça ?
Voilà, ouais, littéralement paradisiaque, ouais, avec une végétation extraordinaire et un cours d'eau avec des cascades qui incitaient vraiment à la baignade. D'ailleurs, il y avait quelques dizaines d'hommes yéménites qui s'amusaient dans l'eau comme des gosses hein, et quelques dizaines de femmes yéménites toutes voilées assises autour donc ouais, de la rivière hein, qui les regardaient. Et vous comprenez, Sophie, mon désarroi parce que je ne pouvais rejoindre ni les hommes ni les femmes ouais, et comme au Yémen la situation est fragile, j'ai pris ouais, peur et je me suis enfui à travers les forêts, les fourrés pardon, et donc là je suis tombé sur un homme assis par terre, dans un vêtement blanc traditionnel, en train de manger. Je voulais m'éloigner encore et il m'a interpellé en russe.
En russe ?
Oui, oui. Au Yémen ? Visiblement, il était ouais, médecin yéménite et il avait été formé en URSS à l'époque. Et pour lui, le russe, c'était la langue occidentale. Hein, donc, voilà. Et on a mangé ensemble, on s'est quittés presque comme des frères. Alors, hélas, je ne sais pas si mon ami le médecin yéménite ouais, est toujours en vie. Hein. Mais pour vous dire que ce n'est pas le vêtement en tant que tel qui importe, mais c'est de savoir si celui ou celle qui le porte a un peu d'humanité.
L'humanité qui est dans le vêtement. L'habit ne fait pas le moine, hein, comme dit le...
Et comment faire l'être humain ? Vaste sujet.
Vaste sujet. Merci Joseph de nous faire prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là justement. Et vous revenez vendredi prochain ?
Merci Sophie, à très bientôt.